L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aime, l'émission quotidienne de Radio Évasion. C'est à midi, c'est rediffusé à 18h. Aujourd'hui, on passe sous le niveau de la mer. Pourtant, on reste sur du continent, avec un entretien passionnant enregistré cet été. Une certaine pandémie nous a récemment appris qu'en science, il faut savoir évoluer. Rien n'est figé, tout bouge, comme les plaques continentales et océaniques, même si le terme « plaque » est plutôt impropre, comme notre invité va nous l'expliquer. Ce qu'on appelle donc couramment la tectonique des plaques décrit justement du mouvement, celui de la surface de la Terre. Sans ces mouvements, il n'y aurait vraisemblablement pas de vie sur Terre. On leur doit aussi séismes et volcanismes et parfois tsunamis. Le mouvement, c'est la vie. Or, voici que la théorie, la tectonique des plaques, est elle-même un peu secouée par le travail de notre invité et ses collègues géologues. Notre invité qui est enseignant-chercheur en tectonique, justement, à l'Université de Bretagne occidentale, rattaché au laboratoire de géologie océanique de l'Institut universitaire européen de la mer. Bonjour Laurent Geoffroy.
Bonjour.
Donc vous êtes allé en Islande, vous allez souvent en Islande, ça fait quelques années que vous avez commencé à travailler sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce travail ?
Oui, la genèse et l'intérêt de l'Islande, qui est un spot très intéressant et très important en géosciences, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est au milieu de l'Atlantique, et que l'Islande se situe donc théoriquement au niveau d'une dorsale, hein, c'est-à-dire cet axe au niveau duquel les plaques s'écartent, et où on fabrique de la nouvelle matière océanique, hein, de ce qu'on va appeler la lithosphère océanique.
D'où les volcans ?
D'où les volcans, absolument. Et en plus de ça, l'Islande a une particularité, c'est que la production magmatique semble particulièrement importante, puisque la croûte de l'Islande est 5 à 6 fois plus épaisse que la croûte des océans ailleurs. Donc en fait, pour toutes ces raisons, enfin, je dirais que l'Islande suscite beaucoup d'intérêt, voire de passion d'un certain nombre de scientifiques internationaux. En France, je dirais qu'on a un groupe modeste de scientifiques en Islande, mais à Brest, nous sommes une petite poignée à travailler sur l'Islande.
Donc vous avez toujours travaillé sur l'Islande, en fait ?
Ah non. Moi, comme beaucoup de mes collègues, j'ai plusieurs chantiers d'intérêt, mais je m'intéresse beaucoup néanmoins à l'Atlantique Nord. Je travaille principalement au Groenland actuellement même depuis 20 ans, mais l'Islande fait partie de mes centres d'intérêt et même de plus en plus.
Et voilà. Quand est-ce que ça a commencé à vous intéresser, vous intriguer particulièrement ? Vous êtes dit un loup.
Alors, le loup, il y a beaucoup de loups en Islande, en fait. D'abord, justement, cette épaisseur de croûte qui est très anormale. Alors, ça a été interprété par les scientifiques comme étant lié donc à une surfusion du manteau terrestre sous l'Islande. Hein, le manteau, il fond naturellement sous les dorsales, partiellement. Mais sous l'Islande, on produit beaucoup plus de magma.
Le manteau, c'est la partie liquide sous la croûte, en gros, enfin liquide, visqueuse, c'est ça ?
Alors, oui. Alors, pas du tout liquide.
Hein. D'accord.
C'est bien ce que je répète à mes étudiants.
Ouais, non, mais très bien, très bien. Bah.
Non, mais c'est tout à fait pertinent comme remarque. Le manteau est toujours à l'état solide, mais il peut fondre partiellement. Donc, quelques pourcentages du manteau peuvent fondre. Notamment dans les zones de remontée du manteau à travers de la Terre, donc précisément au niveau des dorsales. Là, vous avez donc une fusion qu'on dit partielle, c'est comme ça qu'on l'appelle en géologie, et puis ça se comprend tout seul, du manteau. Et là, donc, on produit ces fluides magmatiques, ces basaltes, qui arrivent en partie en surface, mais une partie cristallise aussi en profondeur. Voilà. Et tout ça, donc, est à l'origine de la formation de cette croûte islandaise. Mais là, l'épaisseur ne colle pas avec ce processus. Donc, on a été amené à penser très tôt qu'il y avait une source de chaleur plus importante sous l'Islande. et donc ce qu'on appelle en géosciences un point chaud, comme sous Hawaï, comme sous Tahiti, sous la Réunion, un point chaud, donc une anomalie thermique qui entraîne une surfusion du manteau. Mais même en tenant compte de cette hypothèse qui est confirmée,
d'accord, mais c'est ce que j'avais voilà, demandé. Donc il y a bien un point chaud.
Il y a bien un point chaud sous la dorsale. D'ailleurs, c'est un peu bizarre. Pourquoi elle est, ce point chaud est directement sous la dorsale?
C'est pas le point chaud qui peut avoir créé la dorsale.
Non, d'accord, ça, ok. C'est une excellente. Alors, on reviendra dessus tout à l'heure.
D'accord.
Mais effectivement, l'anomalie thermique a pu favoriser la rupture des continents et l'ouverture de l'Atlantique jusqu'à l'Islande. Ça, c'est possible. Mais sinon. L'anomalie, c'est que un point chaud seul ne peut pas expliquer les 40 km d'épaisseur de croûte en Islande. Normalement, la croûte océanique des océans fait que 6 km à 7 km d'épaisseur, mais pas 40 km.
Quand on dit normalement, c'est aux endroits où on l'a observé par ailleurs, c'est ça ?
Aux endroits où on l'étudie par ailleurs, et c'est vraiment une constante mondiale, que vous soyez dans le Pacifique, dans l'Atlantique en général, dans l'océan Indien, a fortiori, vous avez une croûte des océans, qui fait une croûte magmatique, qui fait 6-7 km d'épaisseur.
Donc là, 40 km, donc ça correspond à une croûte de continent en général, quoi. C'est ça ?
C'est effectivement l'épaisseur classique des croûtes des continents. Alors ça ne veut pas dire qu'il s'agit à 100% d'une croûte continentale ou même du tout une croûte continentale, mais il faut trouver un autre processus que un point chaud, une anomalie thermique sous une dorsale pour expliquer quand même cette épaisseur très anormale de croûte. Et d'autre part, en Islande, on voit quelque chose d'étonnant de part et d'autre de l'Islande dans les terrains qui sont les plus érodés, pas dans ce qu'on appelle le rift actif, où sont les volcans, où on a la sismicité, mais dans les zones un peu plus anciennes, à l'est et à l'ouest de l'Islande, tous les touristes, avec un peu observateurs, peuvent se rendre compte que les laves anciennes sont inclinées fortement vers l'axe central de l'Islande. Et ce dispositif-là, alors non seulement elles sont inclinées, mais quand on regarde le paysage, on voit bien que les laves les plus profondes, donc au bord de la mer, sont plus inclinées que celles en haut des falaises. Il y a parfois de grandes falaises, des fjords, et on voit ça très facilement. Et ce dispositif en éventail, eh ben, on ne trouve finalement qu'en Islande. Et on le trouve de manière ubiquiste partout au niveau de certaines transitions continent-océan. Donc très près des continents, sur les edges, c'est-à-dire les bordures des continents. On trouve ces éventails de lave qu'on appelle en anglais les seaward dipping reflectors, parce qu'on a vu ça en sismique, en géophysique depuis très longtemps. Et maintenant, on sait que ces grands éventails de lave, qui normalement accompagnent la rupture des continents, lorsque le manteau fond en même temps, se forment au-dessus de matières de croûte continentale. D'où cette interrogation que j'ai eue personnellement depuis le départ, comment expliquer en plein milieu de l'Atlantique ces éventails de lave ?
Parce que même si l'Islande est une île immergée, on va dire émergée, pardon, c'est vraiment c'était censé être une plaque sur une plaque océanique, enfin sur
au milieu, l'endroit même où le matériau océanique se fabrique.
D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme protocole pour aller plus loin ? Enfin, qu'est-ce que vous avez mis en place comme étude pour en savoir plus ?
Alors, bon, d'abord, quand je disais que l'Islande intéressait la communauté internationale, une illustration de ça qui est très importante, qui est un travail de collègues, d'un grand groupe de collègues internationaux, dont mon groupe Nord-Atlantique, parce que j'appartiens à une sorte de groupe Nord-Atlantique avec des collègues d'Angleterre, des États-Unis aussi, et de Norvège, et d'Allemagne. Un autre groupe, finalement, a publié dans une très grande revue américaine la première évidence, en tout cas suggestion forte, que certaines roches magmatiques en Islande pouvaient provenir de la fusion non seulement enfin, bon, du manteau, mais aussi en partie de roches continentales au sud-est de l'Islande. Donc ça, c'est très important parce que, je dirais, c'est une évidence chimique que très probablement, il y a du matériel continental quelque part sous les laves d'Islande. Le deuxième point, c'est l'existence d'un minéral qu'on trouve un peu partout, aussi bien en contexte océanique que surtout continental, mais aussi en contexte océanique, qui sont les zircons. On peut les utiliser en joaillerie également. Enfin bon, voilà, ce sont des minéraux. Et ces zircons, en Islande, on en a trouvé qui avaient... Alors ça a été présenté dans une conférence, mais les auteurs, pour des raisons que j'ignore, ne sont pas allés jusqu'au bout, parce que tellement c'était énorme. Ils ont donné un âge à ces zircons qui ne correspond pas du tout à l'âge des magmas constituant habituellement donc les roches de l'Islande, enfin des roches magmatiques de l'Islande.
Et alors c'est plus vieux ou plus jeune ?
Beaucoup plus vieux.
Ah.
Et beaucoup plus vieux, et ça nous renvoie donc à des roches qui ne devraient pas se trouver là.
Elles devraient déjà être enfouies, c'est ça ?
Même pas enfouies.
Dans les profondeurs de la Terre, enfin disparues quoi, non ?
Non,
même
pas. Elles n'existent plus.
Ah,
c'est-à-dire
ouais.
Que quand les continents se séparent, et que l'océan se crée, eh bien, évidemment, les roches de type continental, et c'est le cas, n'existent plus. Donc là, ces zircons seraient d'âge mésozoïque. Hein, enfin, donc,
alors, ça nous fait combien de millions d'années, ça ?
Oh, je ne me rappelle plus exactement l'âge qu'ils ont donné, mais je pense que c'est de l'ordre de 200 millions d'années. Je ne me rappelle plus exactement, mais bon, c'est de cet ordre-là.
Pour avoir un ordre de grandeur, oui.
Voilà. Mmh. Et les terrains les plus récents en Islande, c'est de l'ordre de 15 millions d'années. Mmh. Donc, c'est en fait, ça va très en faveur... Ça aussi de l'existence d'un matériel continental et du fait que les magmas, en remontant, ont extirpé finalement quelques zircons dans du matériel continental et les ont mis à l'affleurement. Et après, bon, l'érosion a fait son rôle et on a trouvé ces zircons sur les plages.
Mmh.
Voilà. En outre, ces mêmes minéraux ont des signatures chimiques qui aussi les rapprochent de matériel continental. Bref, il y a quelques évidence de déjà d'autres équipes de matériel continental en Islande. Mais ce qui a un petit peu boosté un peu notre réflexion pour l'Islande, c'est le fait que on a publié il y a quelques années un modèle de rupture des continents dans une revue du groupe Nature et qui montre que quand les continents ne sont jamais stables à très long terme. Ils finissent toujours... Ah, ça, c'est le principe de la tectonique des plaques, la Terre, c'est une boule d'énergie qui perd son énergie. Cette énergie est transformée en mouvement de plaques, hein, pour faire simple, et en mouvement du manteau et de plaques associées. Cette dynamique se traduit par ce qu'on appelle les cycles de Wilson. Cycle de Wilson, ça veut dire que les continents se rapprochent,
les uns des autres.
Les uns des autres. Mmh. En refermant les océans, les matériaux de plaques qu'on appelle les lithosphères océaniques qu'il y a entre les continents, en les refermant, en les faisant disparaître, d'ailleurs, de nouveau dans le manteau, et en formant donc de super continents qui restent stables un certain temps et qui ensuite, pas longtemps d'ailleurs, et qui commencent à se fragmenter et à redevenir... à réouvrir des océans. Voilà. Donc il y a cette sorte de va-et-vient, de respiration finalement à la surface du globe, dans cette tectonique des plaques, avec des phénomènes de convergence et ensuite de divergence.
Et donc dans l'histoire de la Terre, il y a eu un moment, enfin plusieurs je crois, où il y a eu un seul continent qu'on appelait la Pangée, c'est ça ?
Exactement.
Alors c'était quand à peu près ça ?
Ah ben je vous laisse deviner.
La Pangée.
Alors...
200 millions ? Laissez-moi deviner, 200 millions d'années.
Je vous laisse vérifier.
Ah ben ça alors.
Ça, et chaque auditeur devra vérifier.
D'accord.
Alors, en fait, le cycle complet prend environ 500 millions d'années, entre deux supercontinents.
Okay.
Et là, on est dans une phase de regroupement actuellement hein, des continents, de fermeture des océans, avec toute la formation des Alpes jusqu'à l'Himalaya. Et tout ça, finalement, va conduire de nouveau d'ici... 150 millions d'années à 200 millions d'années à un nouveau supercontinent.
Mais alors du coup, l'Islande, qu'est-ce qu'il y a sous l'Islande ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, dans ce travail qu'on a fait en collaboration avec un collègue de Paris, là, un grand modélisateur, on montre que lors de la rupture d'un continent, et autrefois, alors quand je dis autrefois, c'est il n'y a pas très longtemps, à l'échelle géologique, il y a 60 millions d'années, le Groenland et l'Europe étaient liés. C'était un continent, c'était le même continent.
D'accord.
D'accord. Il y a un peu plus longtemps, mais à peine, je dirais, 90 millions d'années, l'Amérique du Nord, le Groenland et l'Europe étaient complètement, c'était le même continent. On est bien d'accord. Hein. Donc, il y a eu fragmentation, ouverture. Et ce que l'on a montré, c'est que quand on fait une ouverture sur un manteau qui est particulièrement chaud, et peut-être ce manteau chaud est-il en relation avec la future Islande, justement, on peut, dans cette rupture, qui est toujours très complexe d'un continent, on forme ce qu'on appelle des marges. Et les marges, c'est-à-dire des limites, des zones étirées, amincies. Et dans ce cas particulier où le manteau fond pendant l'étirement continental, eh bien, on peut allonger de manière très importante, tout en produisant du magma, donc en recouvrant le système par des laves, par exemple, eh bien, croûte continentale, la lithosphère continentale plus précisément, ce matériau des plaques. Et ce processus pourrait tout à fait expliquer le fait que l'on trouve en Islande ces fameuses laves inclinées vers le rift, que l'on trouve aussi dans la continuité entre l'Islande et le Groenland, et également entre les îles Féroé ou l'Europe, hein, si vous voulez, et l'Islande. Finalement, entre le Groenland, l'Islande et l'Europe, on a reproduit finalement par des calculs, par des modélisations numériques, on peut justifier l'existence finalement de physiquement, en tout cas, d'un queue de matériel continental. Finalement.
Donc une croûte continentale étirée, enfin une
très étirée.
Très étirée. Mais ça serait pas le cas entre le Groenland et les États-Unis. Enfin, vous avez peut-être pas pu le vérifier.
Ça. Alors là, si.
Si
parce qu'on
d'accord.
a beaucoup travaillé.
Très bien, c'est bien. Je vous félicite.
C'est pas entre le Groenland. C'est pas entre le Groenland et les États-Unis. C'est plutôt le Groenland et la Terre de Baffin. C'est vraiment au Canada, nord du Canada.
Oui.
Mais effectivement, non. Là, le processus, c'est disons, au niveau de ce qu'on appelle la mer du Labrador, non. Au niveau de ce qu'on appelle la baie de Baffin, qui est un peu plus au nord, peut-être. Parce que là aussi, il y a une anomalie thermique. Et là aussi, on étire le système au-dessus d'un manteau qui fond.
Et donc, le fait que ce continent se soit étiré a quand même permis donc, à l'océan Atlantique d'apparaître. Enfin, ça s'est abaissé quand même, parce qu'il fallait que ça s'abaisse pour que l'eau arrive, c'est ça, non ?
Alors, il ne faut pas confondre le domaine qui est recouvert par l'eau, qu'on appelle, nous, effectivement, enfin, dans le langage courant, océan, avec l'appellation, je dirais, domaine océanique et domaine continental pour un scientifique. La limite continent-océan est toujours sous l'eau et parfois très loin du littoral.
D'accord.
Très loin du littoral. D'ailleurs, c'est ce qui... c'est ce qui permet de définir d'ailleurs les zones d'intérêt, d'exploitation économique du fond marin. C'est cet élément-là, c'est-à-dire le fait que vous avez d'abord morphologiquement un plateau submergé, ce qu'on appelle plateau continental, un talus, ensuite des fonds abyssaux, souvent, pas toujours. Par exemple, entre le Groenland et l'Europe, on n'a pas ça du tout. On a au contraire une sorte de plateau très peu profond, 200 mètres de profondeur, alors qu'il devrait, si c'était de la lithosphère océanique, il devrait être à 4000 mètres de profondeur, qui était émergé il n'y a pas très longtemps.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps, c'était encore à l'air libre.
Absolument. Avec des faunes qui traversaient du Groenland jusqu'à l'Europe et vice-versa.
Enfin, quand on dit il n'y a pas si longtemps, c'est quoi ? C'est combien de d'années ?
Une quinzaine de millions d'années, probablement.
Oui, d'accord. Donc, on pouvait, à pied sec, aller au Groenland.
Enfin, on pouvait.
nous, peut-être pas.
Il n'y avait pas d'Homo sapiens à ce moment-là.
Disons que les créatures vivantes
des mammifères, munies de pieds. Des mammifères, certainement. Ouais.
C'est ça. Ah oui. Donc, ça, on le sait, quoi. Enfin, maintenant, on en a la certitude.
Oui, bien sûr.
Et du coup, ce n'est pas l'océan Atlantique, techniquement, cette partie-là, partie aujourd'hui sous les eaux. Géologiquement, en tout cas, c'est faux de dire que c'est de l'océan Atlantique, quelque part.
En tout cas, la limite entre continent et océan n'est pas du tout certainement pas du tout celle que l'on pense de, traditionnellement en géosciences.
D'accord.
Donc c'est un peu... Alors nous, on a un petit peu dans l'article qui va bientôt sortir là, sur Islandia. Il a été écrit par une collègue anglaise qui est, que j'adore, mais qui est très... rentre-dedans et, et qui travaille sur l'Islande depuis... C'est une géophysicienne depuis très très longtemps et qui a toujours été agacée, je dirais, par les idées préconçues, les grands paradigmes qui parfois étaient contredits par des données très simples observationnelles ou qui ne répondaient pas à toutes les observations ou à toutes les mesures. Donc, elle a fait dans cet article dont je suis co-auteur un grand coup en disant, voilà, finalement, on pourrait aller très loin, dire non seulement que l'Islande est continentale, mais que, alors ça, j'en suis personnellement convaincu parce qu'il y a un mécanisme, que la ride transverse entre le Groenland et l'Europe aussi, mais également qu'on peut étendre ça vers le nord et vers le sud, bon, pour diverses raisons qui sont scientifiques, hein, mais pour l'instant, ce n'est qu'hypothétique, on est bien d'accord.
Donc voilà. Ce continent englouti, enfin partiellement oui. En tout cas, il ferait quelle surface en gros d'après
tout
vos
dépend,
calculs
alors... entre 100 000 et 500 000 km². Mais c'est... Alors, attention, au nord de l'Islande, on sait depuis très longtemps, et là de manière absolument certaine, qu'il y a de la matière continentale submergée. C'est ce qu'on appelle le microcontinent submergé de Jean Mayen. Voilà. Jean Mayen, c'est une petite île qui est totalement perdue dans l'Atlantique, où il y a une base météo ou scientifique. Mais qui est assez grand, qui est lié à une instabilité de l'ouverture de l'Atlantique. Mais ça, on a compris ça depuis très longtemps. Ce qu'on n'avait pas compris et ce qu'on n'avait pas inséré dans cette évolution, c'est justement l'Islande elle-même et puis ce qui est de part et d'autre de l'Islande. Donc si on prend Jean Mayen, l'Islande et ce qui est de part et d'autre l'Islande, oui, ça fait quand même quelques centaines de milliers de kilomètres carrés, quoi.
Et on sait à quoi c'est dû ce bug dans la tectonique. Enfin, je sais pas, je vais l'appeler comme
pas,
ça.
C'est pas un bug.
C'est quoi?
Ça serait pas un bug. Ouais. Je suis personnellement convaincu que plus on va. Alors, si vous regardez la littérature, ce n'est pas la première fois qu'il est proposé que de grandes aires continentales, même si elles sont très injectées de magma et recouvertes de lave, existent. Enfin, au niveau global, il y a eu un article qui est paru, une étude qui était parue, sur un immense continent également, qui inclut la Nouvelle-Zélande, et qui s'appelle Zélandia. Voilà. Qui autrefois était interprété comme du domaine océanique, d'un point de vue scientifique. Et il y en a d'autres. Par exemple, nous avons étudié des rides suspectes qui se trouvent à l'ouest de l'Inde. Et là encore, certainement, la limite continent-océan est beaucoup plus à l'ouest dans l'océan Indien qu'on le pensait. On sait depuis longtemps que les Seychelles, hein, là on ne peut pas faire autrement que de le savoir, puisqu'en fait on marche sur du continent, hein, les Seychelles font partie d'un plateau submergé qui est très grand également, hein, de lithosphère continentale. Donc des continents sous les océans, il y en a beaucoup déjà, certains identifiés, d'autres suspectés. Mais je pense que dans ce qu'on publie en ce moment-là, on va encore plus loin parce qu'on augmente en fait la largeur en fait de l'espace continental à partir du littoral dans beaucoup d'océans.
Et c'est lié à quoi en fait, à la densité du matière? Enfin, comment est-ce qu'on explique justement?
C'est lié justement à ces processus particuliers de rupture des continents quand le manteau fond en même temps.
D'accord.
Ça, c'est un problème de alors on ne va pas rentrer trop dans la science, mais de thermicité, de chaleur. Et quand vous chauffez allez, on va faire simple, quand vous chauffez la lithosphère des continents, pendant que vous l'étirez, eh bien, il se passe probablement un phénomène, c'est plus que probable, mais un phénomène de découplage à l'intérieur de la croûte entre les parties qui sont plus rigide, moins déformable, et les parties qui peuvent plus facilement, entre guillemets, s'écouler, même si c'est à l'état solide. Et finalement, ces processus vraiment très complexes peuvent conduire à une dénudation complète d'une partie de la croûte très loin et un mouvement de la croûte très loin dans le domaine autrefois considéré comme océanique.
Et alors, vous avez parlé des zones économiques exclusives, justement, des domaines maritimes des différents pays, en gros.
Ouais.
Ça va changer quelque chose si on redéfinit les continents
Les limites continentales.
Bah oui, c'est
oui,
ça.
Oui, absolument. Parce que ça pourrait. Et la première fois que j'ai parlé de ça à un collègue qui est dans le domaine pétrolier, il m'a dit surtout ne publie pas ça parce que ça va entraîner des conflits. Parce que lui, effectivement, on discutait avec des pétroliers, enfin, ont des données extrêmement magnifiques hein, sur les limites entre les continents et les océans, puisque c'est là qu'ils cherchent leur pétrole.
Ben oui, c'est ça, pour faire tout ce qui est prospection minière ou pêche, ou enfin bon, ben, voilà.
Oui, ou surtout pour faire aussi des forages pour trouver du gaz et du pétrole.
Ben oui.
Parce que ça ne se retrouve pas en domaine de lithosphère océanique, mais de lithosphère continentale.
D'accord.
Donc on a accès par eux à des données, quand on travaille avec eux, nous, pas pour chercher du pétrole du tout, mais simplement pour collaborer simplement sur le plan scientifique, échanger des idées scientifiques, eh bien, on a accès à des données extraordinaires que beaucoup de scientifiques ne peuvent pas avoir. Et c'est justement à partir de ces données qu'on a commencé à comprendre que ces mécanismes de rupture continentale peuvent être très différents de ce que l'on pensait ailleurs. Enfin, normalement. Dans la moitié des cas, pratiquement, dans le globe. Dans les moitiés des transitions continent-océan dans le globe, les processus sont distincts de ce qu'on pensait auparavant, certainement.
Donc c'est un vrai changement de modèle quand même.
Voilà, c'est un changement de modèle. Et en fait, effectivement, ça a des conséquences économiques, mais surtout politiques. Parce que, ça peut. Parce que, effectivement, là ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je crois savoir que l'ONU définit les droits d'exploitation du fond marin en fonction justement de l'extension du domaine continental sous l'eau. Et si on considère un peu ce qu'on trouve entre la Grande-Bretagne et l'Islande, ben finalement, il n'y a plus de domaine océanique.
C'est ça.
Et donc, finalement, où se situe la limite entre leurs zones? Voilà, c'est un cas. Mais ce cas-là peut s'étendre à énormément de régions dans le monde. Alors, la France est concernée à la marge, elle a déjà été d'ailleurs par nos îles dans l'océan Indien, hein, comme Kerguelen, etc., où on a ce genre de limite continent-océan magmatique. Mais il y a beaucoup d'autres pays, surtout, qui sont concernés par cette problématique. Et donc, il faudra, le jour où on aura fait un forage, parce qu'en fait, ce qu'on attend, c'est ça, c'est de faire un forage très profond qui traversera ces laves pour aller creuser directement sous cette croûte profonde que l'on pense être continentale. Le jour où il y aura un forage comme ça, qui aura mis en évidence, prouvé ce que l'on raconte, eh bien, il faudra faire attention, je pense, sur le plan mondial. C'est-à-dire que l'ONU devra s'emparer de cette question.
Et le forage, c'est pour quand, enfin, en ce qui vous concerne? Vous avez fait la demande.
Non, mais on réfléchit à ça.
Ouais.
On réfléchit à plusieurs idées. On a l'idée de... Il y a déjà des forages assez profonds qui ont été abandonnés en Islande pour la géothermie, hein, pour l'exploitation de la ressource, de l'énergie qu'on peut tirer des circulations d'eau chaude, hein, très active, hein, en Islande. C'est remarquable, hein, pour ça, l'Islande. Et donc, il y a un forage très profond à l'est de l'Islande, précisément là où il y a des traces dans la géochimie de côtes continentales que l'on aimerait surcreuser, aller beaucoup plus profond. Mais ce serait un des forages quand même parmi les plus profonds existants dans le monde. Donc ça demande d'énormes supports en recherche internationale. Il n'est pas interdit que certains pays avec lesquels on est en contact et qui ont de très gros moyens nous soutiennent. Sinon, il faut faire des forages en mer. Mais en mer, c'est encore plus compliqué, bien sûr. Mais ça rentre plus facilement dans le cadre de grands programmes classiques, je dirais. La croûte océanique, ou en tout cas le fond des océans, est foré dans le cadre de grands programmes auxquels ont accès les scientifiques. Mais ça demande beaucoup de temps à monter ça.
Bon, ben vous reviendrez nous raconter tout ça une prochaine fois, alors.
Oui, j'espère avant ma retraite. Hein.
Merci, Laurent Geoffroy.
Voilà.
Dans un instant, la deuxième partie de l'EM avec de la lecture et surtout du théâtre.